franceinter.fr.
Et à 8h30 sur France Inter, c'est l'heure de la revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, et bonjour à tous. Vous avez forcément entendu parler d'elle, Amma, signifiant maman en hindi. Amma, cette gourou indienne qui passe ses journées à dispenser des câlins à la chaîne. 36 millions de personnes enlacées ces dernières années. Elle attire les foules aux quatre coins du monde, elle inspire les artistes et côtoie les plus grands dirigeants de la planète qui tous s'agenouille devant elle, on dit qu'elle fait des miracles. On dit que se serrer contre elle procure un bonheur immédiat. On l'appelle Mère Divine. Une Mère Divine qui était à Paris il y a quelques jours et qui sera pour 3 jours à Toulon à partir de demain. Amma est célébrée partout. Amma est vénérée partout. Invitée par le pape, honorée par l'ONU. Mais dans le monde diplomatique, Jean-Baptiste Mallet propose ce mois-ci une longue enquête qui présente l'envers de la médaille. Enquête sur l'empire du câlin et sur le business du câlin, car si les câlins d'Amma sont gratuits, les produits dérivés que propose l'ONG qu'elle dirige lui rapportent des millions, gros profits, mais des employés qui tous travaillent bénévolement et parfois dans le plus grand dénuement. Sans doute faut-il parfois se méfier de ceux qui paraissent trop généreux. Eux, pendant leur campagne, ils ne se seront pas fait de câlins. Donald Trump et Hillary Clinton font bien évidemment la une d'une partie des journaux ce matin.
Oui, avec cette question à la une du Monde, Donald Trump peut-il encore gagner?
Pour l'emporter, le mania de l'immobilier doit absolument gagner les États. Pour l'heure encore incertains, comme la Floride, l'Ohio, le Nevada ou la Pennsylvanie, les sondages donnent les candidats au coude à coude dans le journal. Vous lirez d'ailleurs qu'en Russie, tous les médias proches du pouvoir militent pour que ce soit lui, Trump, qui l'emporte, car à leurs yeux, il serait le candidat de la paix, à l'inverse d'Hillary Clinton qui serait la candidate de la guerre. Mais en France, c'est un autre sentiment qui domine, ainsi qu'en témoigne Sud-Ouest, dans l'Hexagone, un rejet massif de Donald Trump. Dans l'opinion publique française, le milliardaire fait quasiment l'unanimité contre lui et la quasi-totalité de la classe politique a exprimé sa préférence pour Hillary Clinton. Pour preuve également la une du journal du dimanche, pourquoi Clinton doit gagner. Grand dossier détaillant comment la candidate démocrate a prévu de gouverner les États-Unis, sachant que si c'est Trump qui l'emporte, nombre d'entreprises françaises ont du souci à se faire. Comme l'explique Jean-Baptiste Duval dans le Huffington Post, le candidat républicain a en effet annoncé des mesures protectionnistes qui auront des répercussions sur plus grands groupes tricolores, dont l'automobile notamment. Renault, Peugeot et Citroën devraient s'attendre à une hausse des taxes à l'exportation. Idem dans la pétrochimie. Total risque de voir se compliquer l'accès au marché américain. En revanche, rien à craindre pour l'industrie alimentaire ni pour le secteur du BTP. Envisageant cette fois la victoire d'Hillary Clinton, le site pose par ailleurs cette question, certes pas cruciale, mais pas non plus sans intérêt. Comment donc appellera-t-on Bill? Une femme à la Maison Blanche, le fait est inédit. Et ce serait donc la première fois qu'un homme occuperait le rôle de First Lady. First Gentleman semble être le terme favori de la candidate démocrate, qui ne manque pas de rappeler que son mari conserve de toute façon son titre de Présidente Clinton. Exactement. Eux non plus ne se sont pas fait de câlins cette semaine. François Hollande et Manuel Valls ont eu une franche explication.
Oui, une explication à la suite des mots employés par le chef du gouvernement. C'était à propos du livre, un président ne devrait pas dire ça.
Il avait fait part de sa colère et évoqué la honte ressentie selon lui par les militants socialistes depuis. Afin de faire oublier les conséquences politiques de ses confidences, François Hollande a multiplié les tête-à-tête avec ses ministres et il s'en est donc également expliqué avec le premier d'entre eux. Tes mots ont été très dur, lui a-t-il reproché, si l'on en croit le JDD, qui précise toutefois qu'aujourd'hui, au dire de l'Élysée, la crise entre Valls et Hollande serait terminée. Et d'après Hollande lui-même, ce livre, c'est maintenant l'histoire ancienne. J'ai voulu restituer le sens des décisions que j'ai eues à prendre tout au long du quinquennat. Il n'y a plus à y revenir, confie-t-il au journal. Autre confidence, celle d'Emmanuel Macron, qui hier à Paris réunissait les troupes de son mouvement En Marche. En octobre, explique-t-il, on a posé un socle idéologique clair et avec une cohérence que n'a aucun parti. On a structuré le mouvement, maintenant c'est la mobilisation générale pour porter l'alternative. Alors certains bien sûr diront que le socle idéologique n'est pas si clair que cela, et surtout qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne sait pas du tout ce que propose l'ancien ministre, mais c'est ce qu'il devrait préciser dans un livre qu'il a commencé à rédiger au début de l'été 2015, un livre dans lequel il parle à la fois de lui-même et de sa vision de la France, livre qui pourrait bien paraître dans les jours qui viennent. Prélude à sa déclaration de candidature à l'Élysée, qui elle aussi devrait intervenir avant la fin du mois. Il faut qu'il se déclare avant le 20 novembre, estime le sénateur PS François Patriat, qui compte parmi ses soutiens. Pourquoi avant le 20 novembre ? Pour perturber les équilibres avant le premier tour de la primaire à droite, soit, mais va-t-il le faire vraiment ? Avec Emmanuel, on ne peut être certain de rien, rétorque Patriat. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'un de ses problèmes.
Compte en commun, Patrick Peloux, Marc Lévy et Didier Deschamps, je vous pose la question.
Compte en commun, Marcel Ruffo, Nagui, Alexandre Jardin, Youssou N'Dour, Philippe Gueluc, Maud Fontenoy, Frédéric Lefebvre. Compte en commun, Plantu, Élie Chouraqui, Jean-Vincent Placé, Stéphane Bern et Valérie Damidot. Compte donc en commun tous ces gens-là, eh bien, ils appartiennent à la liste des 100 personnalités qui ce matin publient un appel dans les colonnes du Parisien quasiment un an après les attentats qui ont endeuillé la France et sa capitale. C'est l'appel des 100 à la fraternité des responsables associatifs, des artistes, des médecins, des sportifs, des animateurs et puis de simples citoyens. Ils ont expliqué au journal leurs idées pour tenter de retisser des liens dans une société française aujourd'hui fracturée, retisser des liens sans pour autant se faire forcément des câlins. De son côté, Mediapart revient en longueur sur l'enquête concernant cette fois l'attentat perpétré dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un prêtre assassiné, le père Jacques Hamel, et un paroissien grièvement blessé par deux jeunes hommes de moins de 20 ans qui se connaissaient à peine et se sont donc mués en duo terroriste. Michel Deléan a eu accès aux centaines de procès-verbaux établis par les policiers. Et il voit dans cet attentat le symbole de l'apparition en France d'un djihad du pauvre, un mélange effrayant d'amateurisme juvénile et de froide détermination, radicalisation express via les réseaux sociaux, de simples couteaux et le choix de la mort en kamikaze, lavage de cerveau, frustration et désœuvrement, fanatisme et fuite en avant se mêlent dans le processus de passage à l'acte et ils ont donc choisi de tuer et d'être tués comme si perdre la vie et faire tuer d'autres comme si enlever la vie et perdre la sienne pouvait lui donner un sens. Cependant, les délires religieux ne concernent pas que l'islam, non, ainsi qu'en témoigne le reportage que publie Cosette ce mois-ci.
Au secours, ma fille s'est radicalisée chez les cathos.
Reportage d'Antonin Rouget, qui s'inquiète pour les membres du Petit Carmel Notre-Dame de la Rencontre, situé à Cimacourbe, aux confins du Béarn. Une quinzaine de jeunes femmes recluses sous la coupe d'une mère supérieure qui traîne une sale réputation, autoritarisme et coupure totale du monde extérieur, une tentative de suicide dans la précédente communauté qu'elle dirigeait. On évoque aussi des séances d'humiliation et une plainte pour abus de faiblesse vient d'atterrir sur le bureau du procureur de la République de Pau. Plainte déposée par les familles des jeunes religieuses, dont certaines seraient aujourd'hui totalement méconnaissables, apathiques, éteintes, perdant la mémoire et tenant des propos par moments délirants. Je la reconnais plus, témoigne ainsi la sœur de Justine. Elle est devenue mièvre, totalement cucu. Elle me demande de me méfier des hommes pour ne pas être happée par les flammes de l'enfer. Elle dit même que le rock'n'roll est une danse diabolique. Un homme d'église qui a fréquenté la communauté explique qu'il s'agit là de la même démarche que pour les djihadistes. On prend une fille généreuse mais fragile, qu'on coupe de son milieu et qu'on met sous la coupe d'un gourou. Évitons les gourous, mais pas forcément les câlins.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.